Pour ouvrir cette série de podcasts de Pidjiki par Christophe Lazerge, je vous propose une conférence sur les chansons qui a été donnée le 5 mars 2019 à Riméa pour les parents d'élèves de l'école. Cette conférence est présentée pour le podcast en 6 épisodes. Voici le premier, consacré à la présentation de la voix et du chant. Bonne écoute. Quelle est la différence entre le chant et des chansons? Le chant, c'est un phénomène plus général, et les chansons, c'est quand il y a des paroles. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité du chant? Ça ne va pas être par rapport aux chansons, la particularité, mais par rapport à la voix parlée. Le chant, c'est un autre mode d'expression que la voix parlée. On pourrait dire que c'est un passage qui va être progressif, mais à un moment donné, il y a une bascule entre la voix parlée un peu psalmodiée et comme dans les rites religieux, souvent, vous avez quelque chose comme ça, là, là, ou alors dans le grand théâtre Sarah Bernhardt, peut-être qu'on a quelques enregistrements assez amusants de notre jour, mais assez poignants au plan de l'expression. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de regarder dans des archives ou chercher sur Internet des archives de Sarah Bernhardt. C'est assez particulier, cette la manière de porter la voix, et donc qui va de la voix parlée à la voix chantée. On n'est pas dans la psalmodie, mais il y a des grandes, comme ça, des inflexions de la voix qui se chargent d'émotions, se chargent de sentiments. En plus du sens des mots, il y a quelque chose dans l'intonation. Donc de la voix psalmodiée à la voix chantée, c'est, si vous le, vous pouvez l'expérimenter là ensemble, vous ça va, on peut le faire ensemble comme ça. Je parle à l'Assemblée, un peu gaulien comme ça, et puis et hop, là je suis parti dans la voix chantée. Dès l'instant où on a basculé dans la voix chantée, il y a un changement très radical, en fait, dans la structure du son. Le son, il y a plusieurs types de sons. Ça, c'est déjà pas dans le truc. Il y a plusieurs types de sons entre le... Si on vient du bruit, le bruit, c'est au niveau des fréquences. Ça vous parle un petit peu. Les fréquences, si je fais un chhh comme ça, c'est que je vais avoir des fréquences de je sais pas, n'importe quoi, de 400 Hz à 1700, 401, 402, 403, etc. en continu. Donc ça fait ce mélange des fréquences fait le bruit. C'est un bruit, plusieurs types de bruit, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas l'objet de la série. Mais disons que vous avez une superposition de fréquences. Et puis, la voix modulée, la voix chantée, elle va privilégier une hauteur particulière. Il y a une fréquence, vous connaissez le La 440, enfin, pour ceux de ma génération qui ont eu le bénéfice d'Émilie Joly, tout ça. Et donc, il y a une chanson, le A440, c'est le La, ici même. Donc, 440, cette fréquence, elle, dans la voix, dans le son musical, pas seulement dans la voix, dans le son musical, il transforme le son musical, en fait, a cette particularité d'avoir une superposition de fréquences. Là, j'ai dit le bruit de 400 à 1700 en continu. Eh bien, dans le son musical, c'est discontinu, les éléments qui composent le son. Ce sont des fréquences, donc des vibrations, et qui sont organisées d'une manière très particulière et dans une proportion constante. Et cette organisation, ça s'appelle des sons harmoniques, et qui sont qui représentent des rapports de notes très précis, qui sont par exemple pour le son Do, le Do grave ici. Ce son comprend l'octave, la quinte, Sol, Do, Mi, Sol, Si, Do. Tout ça, tous ces sons-là, ils sont ici. On entend la fréquence principale qui est la plus grave, mais il est riche de tout ça en même temps. C'est une notion qui est, plus ça va, plus je me rends compte qu'elle est importante. Et dans la vie du son lui-même, et puis dans ce qui est la musique autour de ça. Ça, c'est un phénomène qui n'est pas inventé, c'est un phénomène de la nature. C'est comme ça. Et que ce soit ici, chez les Pygmées, chez les Incas, ou dans les régions reculées de Mongolie. C'est pareil, c'est un archétype naturel de la structure du son. Et donc, quand on est dans la voix parlée, la voix est riche aussi d'harmonique. On n'a pas, le son pur n'existe pas dans la nature. C'est-à-dire qu'une vibration 440 tout seul, ça n'existe pas. C'est juste les ordinateurs aujourd'hui et le courant électrique qui a permis de produire des sons uniques, de les isoler de tout le reste. Sinon, ça ne se trouve pas. Le son est toujours riche de quelque chose, mais il est plus ou moins organisé à l'intérieur. Dans la voix humaine, chacun a une voix différente. Vous savez qu'une empreinte vocale est infalsifiable, parce qu'aujourd'hui, on a des moyens justement d'analyse, de faire des spectres sur toutes les composantes de la voix. Et une empreinte vocale sera toujours distincte de l'autre par la structure de tous ces éléments de hauteur de vibration. Tout ça me paraît peut-être un petit peu loin du sujet des chants et des chansons, mais c'est quand même un élément qui est très important parce que le fait que notre voix soit unique fait de nous aussi une personne. L'étymologie de personne, c'est personare, et qui vient parce qu'on émet des sons, on a une identité. Et quand on n'a pas la possibilité d'émettre des sons, les muets notamment, exactement, il y a des difficultés d'identité. Ça se comprend autrement, en disant que c'est compliqué, c'est vraiment un handicap extrêmement lourd. Donc, le fait de travailler sur la voix, sur le chant, c'est déjà quelque chose d'important. Et de prendre conscience de la valeur de la voix aussi. Donc là, je parle de la voix avant le chant. Et puis, le chant, c'est une façon de moduler les sons dans la hauteur. Alors, pas seulement avec la voix, ça peut être aussi avec tous les instruments de musique qui vont moduler les hauteurs. Mais la différence entre le chant et les chansons, ça va être que le chant est beaucoup plus large que les chansons, puisqu'il est... il est dégagé de tout sens. Il n'y a pas le sens du texte. Alors, à la fois, il est plus large, et puis en même temps, il est restreint, puisque le texte va apporter autre chose. Mais il peut être très, très, très différent. Et en tout cas, c'est par le chant qu'il y a par la voix chantée, plus exactement, qu'il y a une possibilité d'expression de l'intime. Ce qui fait qu'on ne chante pas comme ça, en public, sans en avoir l'habitude, ou sans bien avoir une grande innocence. Mais si je vous demande à quelqu'un ici, tout d'un coup, de chanter tout seul, sans préparation, je vais dire gentiment, ça va, hein, on repassera. Parce qu'on s'expose énormément. Alors on s'expose, mais on expose sa sensibilité, on ne s'expose pas tout nu, mais c'est la sensibilité qui est quand même bien à nu. Parce que la voix trahit énormément de choses. Bon, c'est une évidence de le dire, mais... Et donc, de travailler le chant indépendamment des chansons, ça ouvre cette perspective d'expression en dehors du texte parlé des chansons. Et le texte des chansons va être un très bon moyen aussi de réaliser d'une manière concise une expression sur un texte qui est porteur de sens. Donc ça va aider à s'habituer à donner du sens à la voix chantée, d'une certaine façon. Et puis, à transmettre quelque chose. Et à transmettre un état d'âme, un caractère, un sentiment. La musique, c'est l'expression des sentiments. D'une certaine manière, on peut exprimer les sentiments par la peinture, par le théâtre, par beaucoup de dimensions artistiques. On parle du 7e art, c'est bien qu'il n'y en a pas huit. Mais, puisque le cinéma est arrivé en dernier, il y en a plus ? Non ? Je ne sais pas, vous mettez quoi, vous, dans les armes ? Ça un quiz, mais plus tard. Cette dimension artistique de l'expression est aussi un de nos objectifs dans l'éducation musicale. Regardez où j'en suis. Et je voulais faire un petit rapport quand même entre la voix. Bon, c'est assez succinct, on a fait sur la voix. Mais on chante comme on entend. C'est-à-dire que si vous avez une oreille qui est peu entraînée à écouter, eh bien vous allez avoir peu de marge de contrôle de ce que vous chantez, puisque vous ne l'entendez pas vraiment, vous l'entendez en gros comme ça. Donc on va entendre en gros si ça va, si ça ne va pas, mais pour le détail, ça va être compliqué. Donc le rapport entre la voix et l'oreille est très étroit. C'est pourquoi nous pratiquons aussi beaucoup de travail dans le développement auditif, apprendre à écouter, apprendre à distinguer des sons de plus en plus proches, à mémoriser des sons, etc. De façon à ce que l'oreille être plus exigeante sur l'expression vocale, qui elle-même ne se fait pas toute seule, l'expression vocale. L'expression vocale, elle vient de... il y a quand même tout un aspect physique, un fonctionnement physiologique de respiration, de cordes vocales, de tonus et et ça ne suffit pas d'avoir une bonne oreille. Il faut aussi solliciter le tonus. Alors, vous avez les enfants, vous avez souvent tendance à vouloir un peu calmer le tonus, mais il faut s'en réjouir quand même, même s'il faut apprendre à contrôler le tonus, parce que une absence de tonus, c'est très fâcheux pour le développement. Et le tonus vocal va être beaucoup sollicité pour pouvoir chanter juste. Parce qu'on chante comme on entend, mais jusqu'à un certain point. Parce que l'appareil phonatoire, il doit être sollicité. Et s'il est sollicité que par l'oreille, ça ne va pas marcher. Que font les professeurs de chant pour apprendre à chanter ? Bon, généralement, ils ne s'occupent pas tellement de l'oreille. Il s'occupe surtout de l'appareil phonatoire. Apprendre à respirer, décontracter tout le corps pour faciliter le geste vocal. C'est toujours bizarre de parler de geste vocal. C'est très commun. Si on geste, on a toujours un mouvement, mais le geste vocal, c'est qu'il y a un mouvement, sauf qu'il est tout petit, mais il est bien là. C'est un mouvement intérieur. Donc le professeur de chant, il ne s'occupe pas tellement de l'oreille. Si son élève a de l'oreille, tant mieux. S'il n'en a pas, ma foi, il fait ce qu'il peut. Mais il pourra quand même pas mal de choses par une disposition physique qui va favoriser cette éclosion du souffle et de la voix et de la voix chantée. Bon, ça, c'est aussi pour vous dire qu'il y a la voix, les chansons, mais il n'y a pas que ça dans l'éducation musicale. Il y a le développement auditif, il y a un aspect physique qui doit être sollicité, et puis il y a quand même évidemment cet aspect physique, se réalise notamment par par l'action du rythme. Le rythme, c'est l'élément physique de la musique. Et puis, il y a évidemment le chant et les chansons. Qu'est-ce qu'une mélodie? Si vous voulez bien rechanter, juste quelques motifs. C'est ça, c'est une synthèse, c'est un résumé dans l'ordre de l'échelle des sons utilisés. En descendant, en montant, chanter en descendant. Particulièrement sombre. Alors ça, c'est un mode ancien, un mode grégorien. Phrygien dans certaines nomenclatures, qui a d'autres noms, qu'on appelle aussi communément le mode de mi, parce qu'il commence de mi et un mi sur les touches blanches du piano, très pratique. Donc on travaille aussi sur ces modes avec les enfants. Ça, c'est le côté chant, parallèlement au côté chanson. C'est la sensibilité, et bien là, elle est une possibilité d'expression. Par comparaison, c'est surtout ça qui est important, c'est que si on n'avait qu'un seul mode, on serait prisonnier du mode, mais on balaye toutes sortes d'univers différents. Donc ça, c'était le mode phrygien.